Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde un verset dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas volontaire, mais c'est la suite du verset de la semaine dernière. C'est dans Tite, Paul à Tite, chapitre 2. Et c'est le verset 13. Épître de Paul à Tite, chapitre 2 et verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et j'aimerais parler de cette bienheureuse espérance ce matin. Je note avec ce verset, peut-être dans votre version, vous avez de notre grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas exact. Il y a une loi grammaticale grecque qui veut que la bonne traduction soit « de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ». Je dis ça parce qu'un certain nombre de croyants dans le monde enseignent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'était qu'un homme ou qu'il était un ange. Et ici, ce verset dit bien « la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ ». L'épître de Jean dit aussi que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc il y a assez de versets dans la Bible quand même pour comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, l'incarnation de Dieu sur la terre. Il est égal à Dieu, il est la manifestation de Dieu. Et notre espérance est en Jésus-Christ. Nous avons une bienheureuse espérance. Est-ce que vous avez une bienheureuse espérance ? Nous avons été très influencés en France depuis les années 60 par la philosophie existentialiste. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, pour ceux qui sont en première ou en terminale, je ne sais pas. Cette philosophie est athée ou agnostique et elle dit en gros « la vie est absurde parce qu'on va tous mourir ». Et c'est vrai que la mort rend la vie absurde. On essaye de faire plein de choses, on a plein de projets, et puis, paf, la mort nous arrête. Et la mort nous arrête parfois très tôt dans la vie. Et la mort touche aussi bien les méchants que les bons. Vous avez des petits-enfants innocents qui meurent, vous avez des criminels qui vivent jusqu'à 90 ans, mais la vie a l'air absurde, et c'était le constat. Bien sûr, et c'est même l'Ecclésiaste qui, des millénaires avant, l'avait dit. Le livre de l'Ecclésiaste, le roi Salomon, le prédicateur, littéralement, disait que vanité des vanités, tout est vanité. Sans Dieu, effectivement, sans l'éternité, la vie est vaine. La vie est absurde. Mais on a été influencé par ça. Alors on te dit, ne pense pas à ton passé, tes racines, l'histoire, tout ça, c'est pas intéressant. Surtout, ne pense pas au futur, la mort. Oh là là, on ne parle jamais de la mort, tabou. On essaie de le cacher. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a plus rien. Pense à l'instant présent, jouis de la vie, éclate-toi. Il y a un proverbe grec qui est cité dans la Bible, c'est « mangeons et buvons, car demain, nous mourrons ». Mais c'est la philosophie de beaucoup de gens. J'en profite un max, à plein. Parce qu'on va mourir, donc il vaut mieux se dépêcher de vivre. Mais le chrétien ne doit pas être influencé par cette idée. Le chrétien, il a un passé, il a un présent, il a un avenir. Et ces trois choses sont importantes dans la vie. On sait d'où on vient, nous sommes créatures de Dieu. On sait où on est dans la main de Dieu, notre Père. On marche dans la foi, on ne le voit pas pour l'instant, mais on sait qu'il existe, qu'il est là et qu'il répond quand on le prie. Et on a un avenir, on a justement cette bienheureuse espérance. C'est important d'avoir de l'espérance. Parce que quand on est dans la philosophie existentialiste, cela mène au désespoir. Parce que si vous ne réussissez pas votre vie présente, si vous ne vous éclatez pas, soit parce que vous êtes dans la solitude, soit parce que vous êtes malade, soit parce que diverses raisons, alors votre vie c'est zéro plus zéro égale zéro. Vous n'avez ni avenir, ni passé, ni présent. C'est le désespoir. On parlait de ces malheureux suicidaires qui se tuent toutes les semaines quasiment en sautant devant les métros. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ces suicides? Il y a ce désespoir qui vient d'une philosophie, en fait. Hein, ça ne vient pas comme ça. Il y a quelque chose, un fond, là. Et en tant que chrétiens, nous avons une bonne nouvelle et nous avons une espérance que nous voulons partager. La vie ne s'arrête pas sur terre. Il y a une vie après la mort. Une fois, dans un certain pays, les autorités ont construit un barrage. Et quelques années avant que le barrage ne soit même commencé, ils ont prévenu les habitants d'un petit village en disant « Écoutez, vous êtes dans la vallée, vous êtes sur la route qui va être inondée. Il va falloir que vous quittiez votre village. Tout va être noyé là. Il y aura un lac à la place de votre village. » Et donc, les habitants ont dû se préparer. On dit « Voilà, ça va se passer dans 5 ou 6 ans. » Et il y a un des habitants qui a écrit un petit journal, parce que c'est assez extraordinaire de vivre dans un village qui va être noyé, et vous le savez à l'avance. Et il a dit, mais en fait, ce village a commencé à être laissé à l'abandon, même quand on était encore là. C'est-à-dire, on ne nettoyait plus, on ne réparait plus la route, on ne réparait plus les maisons. Pourquoi ? Ben parce qu'on savait que ça allait périr. Et il y avait une sorte de lourdeur, une sorte de... C'était comme dans un vortex de vide, un trou noir, là. Il ne se passait plus rien dans ce village. Parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour ce village. C'était fini. Il allait être noyé. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'âme de certaines personnes. Hein. Si vous n'avez pas d'espérance de la vie éternelle, vous êtes sans espérance et sans Dieu. Mais votre vie est à l'abandon. Votre vie est perdue. Et s'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin, qui est présent ici, votre vie est sans espérance, sans Dieu. Sachez qu'il y a une espérance et c'est Jésus-Christ. Il a promis la vie éternelle, il est ressuscité des morts pour nous la donner. Vous pouvez mettre votre foi en Jésus-Christ parce qu'il est parfait, il vous aime. Et si vous lui demandez d'entrer dans votre vie, il entrera et il vous donnera la vie éternelle. Il y a cet illusionniste fameux, hein, David Copperfield. En dehors de son métier d'illusionniste, il a une quête très sérieuse. Hein. Il cherche l'eau de jouvence. Il cherche le médicament ou la plante ou le fruit qui donne la vie immortelle. Alors il cherche partout, il va dans le monde entier, il examine les plantes. Bon, il n'a pas trouvé, je pense qu'il ne trouvera pas, parce que l'arbre de vie a été retiré. Dieu l'a retiré. La mort est un jugement sur le péché. Et pour que la mort soit retirée, il faut que le péché soit retiré. Tant que le péché est là, la mort sera là. Mais Jésus ne donne pas une cure de jouvence, ne nous donne pas une vie immortelle sur la terre. Jésus nous donne la vie éternelle, la vie de Dieu. Et on va parler un peu plus de cette bienheureuse espérance. Dans l'Épître à Timothée, Paul dit aussi que c'est Jésus-Christ notre espérance. Je n'espère pas dans une église, je n'espère pas dans une personne humaine, simplement, un gourou, je ne sais pas. Je n'espère pas en moi-même, je n'espère pas dans la France, je n'espère pas dans mon gouvernement. J'espère en Jésus-Christ. C'est lui la source de mon espérance, c'est lui mon espérance même. Le chrétien a trois éléments dans sa vie. Quels sont-ils qui font son appui dans sa vie terrestre? Les trois éléments. La foi, l'espérance et l'amour, la charité, selon. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà. Et si vous enlevez l'espérance, il vous manque un élément dans la vie. On a besoin de cette espérance. Attention, le mot espérance dans la Bible, ça ne veut pas dire un vague espoir. Parce que souvent, quand on dit... Ah, j'ai de l'espérance, l'espérance fait vivre, ça veut dire, on tient le coup, mais c'est dur. Hein. Dans la Bible, le mot espérance, c'est vraiment un mot très fort qui veut dire une ferme attente. Que ce soit en hébreu avec le mot tikva ou en grec avec le mot elpis, ça veut dire une attente. Quand on dit j'ai de l'espérance, ça veut dire j'attends que ça arrive. Ça va venir, vous inquiétez pas, ça va arriver, faut attendre. Et c'est ça l'espérance du chrétien. Le chrétien, il sait que ça va arriver. Il ne peut pas le prouver, parce qu'encore une fois, c'est par la foi, mais quand c'est une certitude, hein, c'est quelque chose qui vous tient dans la vie. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, dit la Bible. Lorsqu'il y a la mort, beaucoup de gens sont totalement perdus, ne savent pas quoi faire lorsqu'ils assistent à des obsèques. Ils voient la vanité de la vie, ils voient, voilà, il est parti, elle est partie, il n'y a rien. Et moi, je vais un jour partir aussi, il n'y a rien. C'est terrible d'assister à des obsèques avec, sans être, avoir aucune espérance. Mais il dit, vous les croyants, vous avez une espérance. Vous n'êtes pas sans espérance parce que nous croyons en la résurrection. Nous croyons que ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront. C'est pour ça que normalement les obsèques dans les églises évangéliques sont différentes. Il y a beaucoup plus de chants, beaucoup plus de joie, parce qu'on sait où est notre frère, où est notre sœur. Et on sait qu'il est même mieux là où il est. C'est ça, l'espérance. Alors, de quoi est composée notre espérance? Eh bien, on l'a vu déjà dans le verset de Tite. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Notre première espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il est parti. Après sa résurrection, il a dit, je reviendrai. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Nous attendons Jésus-Christ. Nous n'attendons pas le paradis sur terre. Nous n'attendons pas une terre merveilleuse où les hommes vont faire la paix comme ça, ils vont s'embrasser les uns les autres, ça va être merveilleux. Non, nous savons que ça ne va pas arriver tout seul. Il faudra qu'il y ait le prince de la paix qui vienne instaurer la paix. La Bible annonce pas mal de guerres, notamment au Moyen-Orient. Et nous y sommes. Si vous regardez hein, les dialogues, qui ne sont pas des dialogues d'ailleurs, entre les grands de ce monde, les Américains, l'Europe et la Russie, la Turquie, on est au bord d'une guerre mondiale. Hein. Ils n'arrivent pas du tout à s'entendre rien que sur un petit pays qui est la Syrie. Derrière, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, tout le monde est prêt à sauter et à faire sauter pour ses intérêts. Chacun cherche son intérêt, personne ne veut la paix. Ce qui intéresse les gens, c'est son intérêt, enfin les gouvernements. Et il y a toujours sur le terrain les victimes. Le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Et dans Ésaïe chapitre 19, il y a une prophétie sur le règne du Messie. Ésaïe 19, il y a beaucoup de prophéties sur le règne du Messie, mais il y a celle-là. Verset 23. En ce même temps, donc ça c'est une expression prophétique pour dire à la fin des temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. L'Assyrie, c'est l'Irak. Hein. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Quand cette prophétie a été annoncée, donnée, les trois étaient en guerre terrible. Hein. Israël allié à l'Égypte contre la Syrie, et la Syrie qui était cet empire, qui était beaucoup plus vaste que l'Irak, qui essayait de conquérir le monde. Mais il dit, un jour, ces trois pays seront amis, serviront le Seigneur, l'Éternel. Dit, mais c'est pas possible, comment est-ce possible? Il y a l'islam, il y a Allah, il y a le Coran. Ce sera possible quand le prince de la paix viendra. Christ viendra juger le monde, il viendra purifier la terre. Ce n'est pas à nous qu'il revient de juger le monde. Parce que nous sommes pécheurs comme les autres, nous avons simplement été graciés, pardonné parce que nous avons cru, nous sommes appelés, nous, à faire quoi sur la terre, chrétiens? À être des témoins et à faire du bien. Hein, il nous encourage, faites du bien, toujours. Et même quand on vous fait du mal, faites du bien, bénissez. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, à faire de toutes les nations des disciples. C'est ça le rôle des églises et des chrétiens, d'être des témoins. Jésus, avant de partir, a dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. On va y arriver.
Vous serez mes témoins.
Nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Sans rire, nous sommes témoins de Jésus-Christ. C'est ce que dit la Bible. Et nous voulons témoigner de son amour, qu'il est descendu vers nous pour nous sauver. Après, le chrétien peut être un instrument de justice, de bien dans la société, et heureusement. Mais ce n'est pas nous qui allons rétablir la paix sur la terre, ce n'est pas nous qui allons rétablir la justice. Tant que le mal est dans le cœur des hommes, il faut qu'il soit extirpé par Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut enlever le mal. Et si les hommes ne se repentent pas, il y a un jour fixé où Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Acte 17, versets 30 et 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, Jésus-Christ. Jésus-Christ va aussi revenir pour les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, pour les prendre avec lui. C'est dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17, où il dit « Nous ne mourrons pas tous, mais lorsque le Seigneur viendra au son de la trompette, les morts chrétiens vont ressusciter et ceux qui seront vivants le jour de ce retour de Christ seront transformés et nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons pour toujours avec le Seigneur. » C'est le jour de la résurrection, un jour extraordinaire. Nous attendons ce jour de la résurrection. Si je meurs avant, ben je sais que je ressusciterai pour ce jour de toute façon. Si je suis vivant, ce sera encore plus merveilleux, peut-être. C'est que je vais être transformé comme ça. J'aurai un corps glorieux qui me sera donné. Je monterai au ciel à la rencontre du Seigneur. Et ainsi, nous échapperons au temps de colère qui s'appelle la grande tribulation qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Parce que Dieu ne juge pas son peuple avec le monde, il prend son peuple à part. De même qu'il a retiré Noé avant de l'envoyer le déluge, de même qu'il a enlevé Lot, il a enlevé de Sodome et Gomorre avant de faire tomber le feu, Dieu va enlever son peuple. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sincèrement. Nous attendons le retour de Christ. Il amènera une justice parfaite. Il amènera le règne de la paix. Une deuxième chose que nous attendons, qui est notre espérance, c'est la rédemption de notre corps. C'est une expression qu'on trouve dans Paul aux Romains, chapitre 8, verset 23. Il dit « Nous aussi, nous attendons la rédemption de notre corps. » Alors, c'est un mot. Rédemption, ça veut dire le rachat. Et dans le contexte, ça veut dire la résurrection, en fait. Lorsque notre corps recevra la vie éternelle de Dieu, il ne sera plus malade, il ne sera plus limité. Ce sera le corps que Jésus-Christ avait lorsqu'il est ressuscité. Est-ce que vous avez lu un peu dans les évangiles les événements après la résurrection de Jésus-Christ dans les évangiles ? Jésus passe à travers les murs, par exemple. À un moment, les disciples sont réunis dans la maison et ils disent « Mais est-ce que tu crois qu'il est ressuscité ?»« Mais oui, j'ai entendu, on l'a vu. » Et ils parlent, et d'un seul coup, Jésus est là au milieu d'eux. Il n'a pas frappé à la porte, il n'est pas passé par la fenêtre. Il est venu, paf, comme ça. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ne le reconnaissent pas. Il y a Marie de Magdala qui, quand même, était très proche de Jésus. Et elle le croise et dit « Ah, vous êtes le jardinier. » Il y a les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Ils sont tristes et ils marchent. Et puis il y a cet homme qui les rejoint qui dit « Mais pourquoi êtes-vous tristes ? » ?»« Mais tu ne sais pas, tu es le seul à pas savoir. » Il y a ce Jésus de Nazareth. On croyait que c'était le Messie. Et puis voilà, maintenant il a été crucifié. Ça fait 3 jours qu'il est dans la tombe. Tout est perdu. Et puis ce troisième homme, c'est Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu, sauf au moment où il rompt le pain, il prie. Là, ils le reconnaissent soudainement. Jésus avait un corps différent là. Il avait le corps de gloire, le corps céleste, le corps qu'il a au ciel. Et nous recevrons un corps similaire. Un corps vraiment physique, matériel. Jésus a mangé après sa résurrection. Mais c'est un corps qui n'est pas comme notre corps terrestre. C'est un corps pour vivre dans la Jérusalem céleste, dans le ciel. Nous recevrons ce corps parfait. Vous savez, on se plaint des douleurs. On se plaint d'être malade. On se plaint d'être fatigué. Ce corps-là ne sera plus fatigué. Par notre corps, nous faisons aussi des actes mauvais, mais ce corps-là sera parfait et vivra éternellement. Nous attendons le retour de Christ, nous attendons la rédemption de notre corps et nous attendons le ciel. J'aimerais lire quelques extraits dans Apocalypse 21, la Jérusalem céleste. Apocalypse chapitre 21. Je lis à partir du verset 21 aussi. Les 12 portes de la ville étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre au mensonge ou à l'abomination. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. C'est là où nous allons habiter, les amis. Alors bien sûr, Jean, il décrit comme il peut, parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement terrestre. Il voit quelque chose et il essaie de mettre une description, mais ça va être des milliards de fois plus fantastique. Mais déjà, c'est extraordinaire. C'est très différent quand même. Il n'y aura plus de nuit, plus de mer ou des choses comme ça, plus de temple. Nous serons face à face avec l'agneau de Dieu qui nous a rachetés. Un jour, il y a un pasteur qui dit « Dimanche prochain, je vais parler sur le ciel ». Et pendant la semaine, il reçoit la lettre d'un des frères qui était âgé et malade et qui dit « Malheureusement, je ne pourrai pas être là, je suis trop malade pour écouter votre message, mais ça m'intéresse beaucoup le ciel. Ça m'intéresse beaucoup parce que je détiens un titre de propriété là-bas. C'est un titre de propriété inaliénable. Il m'a été donné gratuitement par un généreux donateur. Et ce donateur a payé un prix terrible pour me l'offrir. Je l'ai rencontré il y a 55 ans. J'ai accepté son pardon et le cadeau de cette propriété dans le ciel. Si je garde ce titre, ce n'est pas pour spéculer avec, parce qu'on ne peut pas le vendre, il n'est pas cessible. Mais j'attends avec joie le moment où j'entrerai dans ma propriété. Et je reverrai mon donateur. Voilà. Et cette lettre est très belle, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui croyait concrètement qu'il avait sa place au ciel. Est-ce que vous avez cette foi? Est-ce que vous pouvez dire, oui, le Seigneur me prépare une place au ciel? J'ai mon titre de propriété. C'est pas moi qui l'ai gagné. C'est Christ qui me l'a donné par sa mort sur la croix. Nous sommes appelés à vivre au ciel. La Bible dit que nous avons une vocation céleste, une cité céleste qui nous est préparée. Tout n'est pas sur la terre. Il y a aussi la présence éternelle de Dieu. Jésus dit, n'amassez pas sur la terre des trésors qui vont pourrir, rouiller. Amassez-vous un trésor dans le ciel. Nous avons une cité, la Jérusalem céleste, qui nous attend. Dans cette cité, nous trouverons le repos. Le repos de toutes nos œuvres, le repos de toutes nos fatigues, de toutes nos souffrances, toutes nos afflictions, toutes les persécutions. Il y aura ce repos éternel. Et ce repos, ça ne veut pas dire qu'on va dormir. C'est qu'on ne va plus être sous tension, sous stress, sous crainte. On va être dans cette paix parfaite. Il y aura la consolation, il y aura la perfection. Parce que Au ciel, il n'y aura plus de mal, plus d'imperfection. Les perfectionnistes seront ravis. Philippiens 6 nous dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, pour ce jour de la résurrection. Tout sera rendu parfait par Dieu. C'est Dieu qui va le rendre parfait. Est-ce que vous attendez la perfection? Est-ce que vous souffrez de l'imperfection? Oui, nous souffrons tous, je pense. Mais au ciel, tout sera parfait. Dans la présence de Dieu, nous serons accomplis, totalement accomplis. Dans notre vie, nous ratons beaucoup de choses, nous négligeons beaucoup de choses, nous manquons des occasions. Mais dans la présence de Dieu, tout sera parfaitement accompli. Il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de vide. On dira, ah, si j'avais, si j'avais pas. Tout sera, on sera dans la plénitude absolue. Ça, c'est notre espérance. Il y aura une sainteté partout et en tout temps. Plus de péché, plus aucun péché, plus aucune transgression, aucune iniquité, aucune injustice. C'est John Wesley, le prédicateur de l'Évangile et l'auteur de Cantiques aussi, qui a déclaré sur son lit de mort, « Oh, si je pouvais habiter un pays où nous ne péchions plus et où ne voyons plus les autres pécher. » Et il savait que c'était le ciel. Le seul pays, c'est le ciel. Nous rentrerons dans la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire, c'est Colossiens 3:4. Nous savons que si nous devons souffrir l'humiliation, la honte, à cause de la croix, à cause de Jésus-Christ, parce que nous sommes chrétiens parfois, nous entrerons dans la gloire au ciel. Ce ne sera pas la gloire des Oscars ou des Césars, cette gloire factice des hommes, hein, où tout le monde se fait du cirage les uns sur les autres, mais ce sera la gloire de Dieu qui va jaillir sur nous et qui va nous remplir. Ce sera merveilleux d'entrer dans la gloire de Dieu, de participer à la gloire de Dieu. Quand vous voyez le soleil éclatant et à travers les nuages, hein, vous avez les rayons qui surgissent comme ça, ça fait penser un peu à la gloire de Dieu. Ces éclats de lumière, eh bien, nous participerons à cette gloire. Il y aura aussi l'amour parfait. 1 Corinthiens 13:13. Hein? C'est un bon jour pour parler de l'amour. Merci à notre frère. Et au ciel, il y aura un amour parfait. Maintenant, ces trois choses demeurent, dit la parole de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que la foi et l'espérance nous quitterons lorsque nous serons face à face. On n'aura plus besoin de foi, on n'aura plus l'espérance, on aura la chose elle-même. Mais l'amour, lui, continuera éternellement. Et ce sera l'amour de Dieu. Ce ne sera pas notre amour à nous, si imparfait, si limité. Ce sera cet amour de 1 Corinthiens 13, hein, qui est patient, qui est plein de bonté, qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle point d'orgueil. Vous avez remarqué dans cette liste tous les négatifs? Il y a plus de négatifs que de positifs, en fait. Hein. Il commence avec l'amour est patient, plein de bonté. Ça, c'est bon, c'est positif. Mais après, il dit tout ce qui n'est pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de péché, d'orgueil, d'égoïsme. Et il faut que l'amour vienne contrer cet égoïsme. Hein. Mais au ciel, il n'y aura plus d'égoïsme, il n'y aura plus de combat, de lutte. Ce sera l'amour qui va régner parfaitement. Et je ne veux même pas aller dans le sens de ceux qui se moquent du ciel en disant « Oh là là, on va s'ennuyer. Ce qui est marrant dans la vie, c'est de pécher. » Non, ce n'est pas marrant le péché. Le péché détruit le monde, détruit les âmes. Au ciel, on ne va pas s'ennuyer. Non, ça c'est sûr que non, parce que ça va être tellement merveilleux. On va se régaler, mais d'une façon qu'on n'imagine pas. Je pense que ceux qui peuvent imaginer, c'est ceux qui ont déjà vécu un peu la gloire de Dieu dans leur relation avec Dieu, dans la prière. On peut goûter un peu à cette gloire. Les apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ils l'ont connu lorsqu'ils ont vu Christ se transfigurer devant eux. Là, ils ont vu un peu la gloire céleste. Et nous, on ne peut pas voir ça parce que Christ est au ciel, mais on peut le voir dans la prière. Quand vous pensez à Dieu, vous pensez à ce qu'il est, vous pensez au ciel, il peut arriver que vous voyez cette gloire. Et ça éclipse tout le reste, tous vos soucis,
Toutes vos plaintes, tout disparaît devant la gloire céleste, devant l'amour infini de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure. Il y aura bien sûr l'immortalité au ciel. Nous ne pourrons plus jamais mourir, il n'y aura plus de fin à notre vie. Il n'y aura plus cette interruption, ce jugement de la mort qui vient casser la beauté de la vie. Au ciel, nous adorerons le Seigneur. Au ciel, nous servirons le Seigneur. Au ciel, nous régnerons, dit la Bible. Nous serons très occupés, je pense. Et c'est là notre espérance. C'est ce qui fait que sur terre, notre vie a une joie, un sens. On n'est pas comme dans ce village qui est voué à être noyé. On a notre attente. Et même si je suis en prison pour ma foi, même si je suis malade, même si je suis handicapé, même si je suis pauvre et en difficulté, avec cette espérance dans ma vie, tout est surmontable. J'ai cette joie. Il dit « Réjouissez-vous en espérance ». On a beaucoup de soucis, beaucoup d'afflictions sur cette terre. Hein. Et encore, en France, on est relativement épargné par rapport à d'autres pays. Mais on a nos soucis aussi. Et avec l'espérance, ça vous permet de voir les soucis autrement, avec une autre dimension, une autre perspective. Comme écrit Paul aux Corinthiens, il dit « Les petites choses, les petites afflictions du moment présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, au poids éternel de gloire », il dit. Il compare nos légères afflictions avec le poids éternel de gloire. Mais quand on les vit, les afflictions, c'est pas léger. On dit, ouais, c'est lourd, Seigneur. J'en bave, c'est dur. Mais si tu le compares à la gloire à venir, tu vas voir que c'est tellement léger à côté. Parce que la gloire que Dieu nous réserve est extraordinaire. Alors que le Seigneur nous donne de nous réjouir en espérance, de ne pas oublier où nous allons. Est-ce que vous avez déjà préparé ce que vous allez faire pendant les vacances? Vous avez réservé peut-être un gîte? Une chambre d'hôtel? Quelque part où vous allez faire du sport ou je ne sais pas, vous amuser ou... Et est-ce que vous avez réservé pour le ciel, pour l'éternité? Pourtant, c'est la dernière destination et celle-là, il ne faut pas la rater. Hein. Vous pouvez rater vos vacances, mais rater le ciel, c'est terrible. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr d'avoir la vie éternelle, si vous n'avez pas fait votre paix avec Dieu, vous n'êtes pas en règle, et si vous mouriez aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez, mais alors même vous avez beaucoup de chances d'aller dans la perdition éternelle, c'est le moment de vous réconcilier avec le Seigneur. Le Seigneur, dans son amour, est venu vers vous, tendre la main et dire « Je t'aime, je veux te pardonner ». Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se repente, qu'on dise « Seigneur, je reconnais mes fautes, je reconnais que j'ai péché, que je t'ai offensé, je n'ai pas suivi ta loi du tout, ni ta volonté, mais aujourd'hui je veux faire la paix avec toi, Seigneur, je veux que tu me pardonnes et me sauves. » Sachez que le Seigneur le fera. C'est certain, parce qu'il a promis, parce qu'il est mort et ressuscité pour cela. Ne manquez pas cette occasion. On va avoir un moment de prière et un dernier cantique. Et si vous voulez vous incliner devant le Seigneur. Juste avant de prier, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui est encore sans espérance? Et ce matin, vous voulez vous tourner vers le Seigneur. Vous avez vu ce verset qu'on a récité. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Vous pouvez être sauvé éternellement ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière dans ce sens? Et pendant qu'on a les têtes baissées, est-ce que vous voulez manifester votre besoin de prière en levant la main afin que je vous voie? Je me réjouis si tout le monde est sauvé ici et on se retrouvera au ciel. Ça, c'est merveilleux. Avec des millions de gens. En attendant, il faut qu'il y en ait d'autres et qu'on aille leur parler de la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette espérance vivante, réelle, profonde, qui est notre joie. Et même si nous avons des afflictions, Nous voulons, Seigneur, les comparer à la gloire à venir. Nous voulons nous réjouir en espérance. Merci pour cette bienheureuse espérance en Jésus-Christ. C'est toi, Seigneur, que nous attendons et nous avons hâte que tu viennes. Nous avons hâte de voir ta face, d'être dans ta présence, dans la Jérusalem céleste, là où il n'y a plus de péché, plus de mal, plus de souffrance. Merci, Seigneur, de ce que tu ne vas pas laisser le mal triompher et régner pour toujours, mais tu vas un jour venir et rétablir la justice. Nous prions, Seigneur, pour les populations qui souffrent d'injustice. Nous prions qu'ils puissent entendre l'Évangile, que les chrétiens leur parlent et qu'ils se tournent vers toi. Nous prions que, Seigneur, tu mettes ta grâce sur ces peuples en souffrance. Et nous te louons pour ta patience. Tu as retenu quelque part ton retour pour que tous aient une chance d'être sauvés. Merci de cette grande patience. Amen.